Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Josephine Jones Mundimana.
Nous sommes samedi 3 décembre 2022. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bien merci pour votre fidélité à la radio Nzamba Gatika Kawe. C'est le rendez-vous du journal en français. Voici d'abord les principaux titres. Le Burundi et le Rwanda viennent de bénéficier d'un financement de 75 millions de dollars américains destinés à la construction des routes transfrontalières. Le Fonds africain de développement FAD l'a accordé pour faciliter le désenclavement des deux pays. 8 corps des militaires burundais ont été rapatriés du territoire congolais et une vingtaine d'autres blessés. Cela a été fait mercredi selon des sources militaires. Ils affirment que ces corps ont été acheminés dans la morgue militaire du bataillon DCA. Fouille chez les responsables communaux du CNDD-FDD en commune Nyanzara, qui est de la province de Makamba. Le secrétaire communal de ce parti et le représentant des jeunes Imbonerakure la collègue du parti ont été interpellés ce samedi dans la matinée. Et comme tous les samedis à suivre, le magazine En Synergie au cœur de la société, la technique de conservation du maïs dans les stocks de la Nagressa est le sujet du jour. C'est après découverte de plusieurs sacs pourris pour mauvaise conservation. Voilà pour les titres. Bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Lionel Nzoyisaba, membre du parti Senel en province Bubanza, est décédé hier après avoir été torturé par des Imbonerakure de Musenyi en commune Manda. La famille du défunt précise que ces jeunes du parti au pouvoir l'ont enlevé jeudi sur la colline Nyabikele et l'ont ensuite amené à la rivière Gifugwe avant de le ramener dans un état de grave faiblesse. L'officier de police l'a ensuite recueilli et l'a mis directement dans le cachot. Mais l'état de Lionel Nzoyisaba a continué à s'aggraver. L'officier de police a alors décidé de l'amener dans une structure de santé, mais il était trop tard car Lionel est aussitôt décédé. La famille affirme qu'elle connaissait Bourreau, en citant plus particulièrement l'Imbonerakure du nom de Basabose, l'administrateur communal et le chef de zone. Ce drame a ému et choqué plus d'un. C'est le cas du mouvement Inamahoro Femmes et Filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Marie-Louise Vaichako, présidente de ce mouvement, dit craindre pour la vie de l'épouse de Lionel Nzoyisaba. Selon elle, elle risque d'être également tuée parce qu'elle a dénoncé nommément ceux qui sont impliqués dans ce crime. Marie-Louise Vaichako en appelle aux autorités pour assurer la sécurité de la veuve et pleurer. On l'écoute.
Cette femme qui pleure et déverse sa profonde douleur parce que son mari vient d'être tué par des Imbonerakure pour le seul fait d'être membre du parti Senel et que rien n'est fait pour la secourir, les auteurs de ce crime ne sont point inquiétés, ils ne sont ni arrêtés ni jugés au moment où il est connu de tous que la bonne gouvernance est la clé de la paix, de la justice et du développement. Je ne sais pas comment les dirigeants du Burundi pensent remettre le pays sur les rails en assurant la protection de la population, en s'assurant que tous ceux qui sont en détresse sont secourus et que la justice indépendante et équitable est une réalité pour tous. Un problème inquiétant aujourd'hui, c'est ce problème de cette femme dont le mari a été tué. Le fait qu'elle pleure, qu'elle déverse son amertume et révèle les noms des auteurs de ce crime risque d'être source d'inquiétude, source de violence et même peut-être de sa mort. Qui sait? À voir les dynamiques du moment, la manière dont les victimes sont maltraitées, il y a lieu de s'inquiéter. Nous demandons aux dirigeants au plus haut niveau de prendre leurs responsabilités pour que cette femme soit vraiment rassurée, secourue et protégée. En tant que femme, les pleurs de cette sœur devenue veuve par la force de ces malfaiteurs, ne saurait nous laisser indifférentes. Nous lançons aussi un appel vibrant à ces femmes qui ont eu le privilège d'accéder aux positions de prise de décision au sein du gouvernement, de l'Assemblée nationale ou ailleurs, afin qu'elles fassent tout leur possible pour que les femmes et les filles soient mieux protégées, que leurs droits soient respectés et que leurs cris soient toujours entendus. ce que cette femme dont nous parlons aujourd'hui est en train de vivre ne devrait laisser aucune femme, aucune fille indifférente.
8 corps de militaires burundais ont été rapatriés de la République démocratique du Congo avec une vingtaine de blessés. La nuit de mardi à mercredi, les corps ont été amenés à la morgue militaire du bataillon des CIA passives dit Guantanamo. Certains des blessés sont en train d'être soignés à l'hôpital militaire. Les autres sont soignés dans différentes structures sanitaires de Bujumbura. Plus de détails avec Bonfils Niyongere.
Des sources de la radio Nzambagate Kakawe indiquent que des combats intenses ont eu lieu samedi et dimanche de la semaine dernière dans les localités de Naombe et Bichaka, dans le sud Kivu, en République démocratique du Congo. Des sources militaires précisent un bilan de 8 corps déjà rapatriés la nuit de mardi à mercredi par des éléments d'évacuation sanitaire du 68e bataillon Atmis. Les mêmes éléments ont également rapatrié plus de 20 blessés. Les corps de ces militaires ont été évacués vers la morgue du bataillon des CIA passive du Guantanamo situé à Rukaramu, tout près de l'aéroport international de Bujumbura, tandis que les blessés ont été évacués vers d'autres structures de soins de Bujumbura, dont l'hôpital militaire. Les mêmes informations indiquent en outre le nom de certains de ces militaires qui ont péri sur le champ de bataille. Il s'agit du major Ninhunze ou encore des hommes de rang, dont Isaïe Nakirutimana et Augustin Zoïsava. Les sources militaires révèlent en outre que d'autres éléments d'évacuation sanitaire ont été déployés vers la République démocratique du Congo depuis le soir de mercredi. Il s'agit de ceux du 69e bataillon Atmis. La raison étant que les éléments d'évacuation sanitaire du 68e bataillon Atmis sont depuis hier soir en attente d'être déployés en Somalie pour la relève. À la rédaction de la radio Nzambagate Kakawe, nous n'avons pas encore eu la version officielle de l'armée burundaise sur toutes ces informations.
Merci, bon fils Niyongere. Le secrétaire communal du CNDD, FDD, le représentant des jeunes de ce parti en commune Nyanzarake ont été interpellés ce samedi dans la matinée après la destitution des responsables du conseil communal ce vendredi. Des fouilles perquisitions ont été effectuées au domicile de certains conseillers communaux qui ont participé dans cette réunion. Selon ces derniers, une information concernant leur interpellation a circulé en fin d'après-midi ce vendredi. La police a été déployée très tôt ce matin à leur domicile, mais jusque-là, aucun des membres du conseil communal n'a encore été arrêté. Plus de détails avec Alexandre Niyungeko.
Tadela Ishimi, secrétaire communal du CNDFTD, Jonathan Mawenayo, responsable de jeunesse de ce parti à Nyanzarak, ont été interpellés à leur domicile le matin de ce samedi. Ils seraient accusés d'avoir influencé les conseillers communaux à destituer les membres du bureau de ce conseil communal. Le conflit entre l'administratrice de cette commune, Marie-Gorée Tirangunda, et le bureau du CNDD-FTD, dont elle est militante, date de plusieurs jours. Une source au sein du CNDD-FTD dit que Marie-Gorée Tirangunda, en collaboration avec la gouverneure Françoise Ngozilazana, avait écrit une lettre au secrétariat général du parti pour réclamer le remplacement de Tade Ndayishimiye à la tête du CNDD-FTD. Le responsable de la Ligue des jeunes de son parti, Jonathan Mawenayo, quant à lui, avait déjà été arrêté par le service national de renseignement à cause d'un désaccord entre lui et Marie-Gorée Tirangunda, administratrice de Nyanzarak, dans le conflit au sein de l'église des Zébi à Nyanzarak. Les membres de son conseil contactés disent ne pas comprendre les raisons de ce qu'ils qualifient de persécution, parce que pour eux, le procès verbal de la réunion d'hier est déjà entre les mains du ministère de l'Intérieur. Ils disent qu'ils sont prêts à assumer leur décision car ils détiennent toutes les preuves sur les manquements du bureau de leur conseil. L'administratrice Marie-Gorée Tirangunda a déjà annoncé qu'elle ne reconnaissait pas les décisions des membres du conseil communal. Elle indique que par ailleurs, la réunion a été tenue en dehors des règles exigées.
Inzamba. 71 millions de dollars pour le Rwanda et 3 millions de dollars pour le Burundi. C'est le financement du Fonds africain de développement qui va être débloqué pour construire des routes transfrontalières afin de renforcer le désenclavement de ces deux pays voisins. Ce financement a été adopté ce jeudi par le conseil d'administration de ce fonds. Les détails avec Josine Kadze.
Ce financement du Fonds africain de développement est destiné à mettre en œuvre la première phase du projet d'amélioration des routes transfrontalières de la communauté de l'Afrique de l'Est. Pour le Burundi, cette première phase, financée à hauteur de 3,4 millions de dollars, va porter sur des études pour le bitumage d'environ 65 km avec des connexions frontalières à Kanyaruho, Butare, Chili, Ruhwa et Rusizi. Il y aura aussi des études pour la construction de centre de collecte de produits agricoles, une étude technique détaillée et la conception d'un poste frontalier à guichet unique à Kanyaruro, à la frontière entre le Burundi et le Rwanda, en vue d'un financement lors de la phase 2 du projet. Ces activités incluent également le renforcement des capacités en matière de facilitation des échanges et du transport et la prise en compte des conditions environnementales et de vie des populations, notamment la prise en compte du genre dans la zone du projet. Pour le Rwanda, cette première phase du projet va permettre de bitumer 69 km sur un total de 213 km de route transfrontalière en 6 tronçons situés dans les districts Rusizi, Nyaruguru, Musanze, Nyabihu et Rubavu. Le reste, environ 144 km, sera achevé au cours de la phase 2 et fera l'objet d'une étude de faisabilité détaillée lors de cette première phase. La directrice générale de la Banque pour l'Afrique de l'Est, Nena Nwabufo, a indiqué que la Banque africaine de développement soutient l'intégration régionale par le biais de projets multinationaux. Elle a ajouté que l'amélioration des routes transfrontalières a été conçue en tant qu'élément clé de l'amélioration de la connectivité du transport pour ces pays enclavés. Elle poursuit que cette première phase va contribuer à faciliter les échanges commerciaux et le transport et va aussi permettre de réduire le coût et la durée des voyages en améliorant l'état des routes et la sécurité routière. Le projet s'inscrit aussi dans l'agenda 2063 de l'Union africaine et contribue à la réalisation de 3 des 5 grandes priorité opérationnelle de la banque, les high five, à savoir intégrer l'Afrique, industrialiser l'Afrique et améliorer la qualité de vie des populations en Afrique.
Josine Kadze, la direction provinciale de l'enseignement à Rumonge est caractérisée par de multiples cas de corruption du sommet à la base. Des enseignants comme des parents de Rumonge pointent du doigt le directeur provincial Isaac Ndikuriyo d'être derrière ce phénomène de corruption. Il demande au ministère de l'Éducation de veiller sur le comportement indigne du responsable de l'enseignement dans cette province de Rumonge. On fait le point avec Eddie Claude Linazwe.
Tous les directeurs des écoles de Rumonge sont en pleine campagne de collecte de 5000 francs burundais auprès des parents des élèves pour la dactylographie des examens du premier trimestre. Des sources parmi les enseignants et les parents de Rumonge affirment que le directeur de l'enseignement à Rumonge, Isaac Ndikuriyo, a attribué un marché au secrétariat public connu sous le nom de Motes Jean-Marie Habonimana, propriétaire de ce secrétariat public, a des affinités avec le directeur provincial de l'enseignement. Certaines sources soupçonnent que Isaac Ndikuriyo a des parts dans ce secrétariat public. C'est cela qui explique l'attribution de ce marché à son partenaire commercial. En plus de cela, chaque école de Rumonge doit avoir la photo du président et payer 25 000 francs au secrétariat Motes, tandis que tous les enfants des établissements de Rumonge doivent payer 1 000 francs pour avoir une carte d'étudiant. Ce qui a révolté les directeurs, c'est qu'ils ont reçu l'ordre du directeur provincial de l'enseignement de collecter 5 000 francs pour chaque élève afin qu'il s'achète un pneu de son véhicule de service. Selon des sources proches de la DPI, cette collecte équivaut approximativement à plus de 30 millions dans tous les établissements de Rumonge. Isaac Ndikuriyo s'est ainsi acheté une voiture de type Probox qu'il partage avec Jean-Marie Aounimana et qui est utilisée dans leur commerce. Le véhicule aurait coûté 23 millions de francs. Selon toujours des sources à Rumonge, il est également accusé de donner de mutations moyennant le paiement d'un million pour le demandeur de cette mutation. Ces sources rappellent qu'il n'y a pas 3 mois, une secrétaire à la DPI Rumonge a écopé d'une peine de 2 ans de prison ferme. Elle était accusée de pot de vin exigé à une enseignante de la commune Ouyengero de la province de Rumonge pour avoir une mutation. Dans l'argent collecté, il y avait une part destinée au directeur provincial de l'enseignement, comme la mise en cause l'a révélé à la barre au tribunal de grande instance de Rumonge. La rédaction Inzamba a joint par téléphone Isaac Ndikuriyo, mais il a exigé notre présence physique à son bureau pour s'exprimer. Il y a près de 2 semaines, le Premier ministre Gervais Ndela-Kouka, lors de sa visite aux administratifs de Rumonge, avait déploré la mauvaise conduite des administratifs de cette province et avait demandé de changer de comportement.
Le Programme alimentaire mondial PAM a décidé cette semaine de retirer son lot de haricots récemment distribués aux réfugiés burundais et congolais du camp de Nyarugusu en Tanzanie. Le constat de cet organisme international est que ce haricot était de mauvaise qualité. C'est après vérification par les représentants du PAM et les autorités de ce camp des réfugiés. Le point avec Jean-Marie Ndavashinze.
Ce qui était présent dans la réunion, c'est le représentant du programme alimentaire mondial à Nyarugusu, le responsable du camp de Nyarugusu qui représente l'État tanzanien Siasa Manjenje et les réfugiés burundais. Selon ces derniers, ils se sont conformés et aussi au choix des Congolais qui avaient été les premiers à refuser de prendre ces haricots de mauvaise qualité. Suivez-les d'entre eux.
Ils ont commencé à penser que c'est une politique du représentant de l'État tanzanien au camp de Nyarugusu, qui est en même temps responsable de ce camp, Siasa Manjenje, d'amener les réfugiés à refuser ce haricot, alors qu'ils ont testé ensemble le temps que prend la cuisson de ce haricot, et même ceux qui ont représenté le programme alimentaire mondial avaient fait le constat. Aujourd'hui, ceux du programme alimentaire mondial sont venus s'entretenir avec nous pour connaître notre avis. Nous avons rejoint nos confrères congolais en refusant de prendre ce haricot qui ne cuit pas à temps et que nos enfants risqueraient d'aller à l'école sans manger.
Siasa Manjenje, le représentant du camp de Nyarugusu, a soutenu les réfugiés et a affirmé que c'est de leur droit de refuser de prendre ces haricots de mauvaise qualité.
Nous venons de prendre vos souhaits et constater si vous pouvez prendre ce haricot qui ne cuit pas. Vous n'êtes pas obligé de prendre par force. Nous avons entendu vos avis. Il est de votre droit de refuser de prendre ce haricot. Nous allons faire rapport et le soumettre aux concernés.
Le représentant du programme alimentaire mondial a fait savoir qu'il n'y a plus une autre sorte de haricots dans les stocks, qu'ils vont désormais recevoir uniquement de la farine, de l'huile et du sel, et qu'ils attendront l'année prochaine pour avoir d'autres haricots de bonne qualité.
Les Congolais ont perçu la farine, l'huile et le sel uniquement. C'est pourquoi je suis venu ici pour m'entretenir avec vous et connaître vos choix. Vous comprendrez qu'avec votre choix, vous allez recevoir la même chose que les Congolais, de la farine, de l'huile et du sel. Nous n'avons pas d'autres légumes dans notre stock. Vous allez attendre le nouveau lot prévu pour l'année prochaine.
Ces haricots ont commencé à être distribués au mois de septembre aux réfugiés congolais qui ont alerté les autorités du camp qui sont de mauvaise qualité. Sachez que ces réfugiés burundais du camp de Nyarugusu n'ont aucune source de revenus car l'État tanzanien les a interdit de pratiquer toute activité génératrice de revenus. Ils dépendent uniquement de l'aide humanitaire.
Merci Jean-Marie Davachinze. C'est à présent le moment de la revue de la presse. C'est avec Karine Dussavé.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Bienvenue chers auditrices et auditeurs de la radio Inzamba Gateka Kawe. La revue de presse de ce samedi 3 décembre 2022 s'ouvre sur l'agence burundaise de presse qui parle des dangers qu'encourt le Burundi à cause de l'acidité des sols cultivables. Selon ABP Info, 70% des sols cultivables burundais sont acides. Cette agence se base sur une étude faite par le docteur ingénieur Valence Ndayisenga, doyen de la faculté d'agronomie à l'université de Ngozi. Les conséquences sont nombreuses, dont la chute de la production. La situation est comme telle au moment où le domaine de l'agriculture reçoit un petit financement, ce qui est déplorable d'après l'expert. D'autres défis qui hantent le secteur de l'agriculture, c'est le changement climatique qui entraîne des perturbations pluviales. Aussi, ne faut-il pas oublier de signaler, parmi les défis, l'accès difficile aux semences améliorées étant donné que seulement 10% de la population burundaise peuvent en avoir. Nous poursuivons cette revue avec SOS Média qui évoque la situation de 100 réfugiés du camp d'Ozaleka au Malawi. Détenus dans des cachots de ce pays pour avoir incité à la révolte des autres réfugiés du dit camp. Mardi de la semaine dernière, une émeute a surgi lorsque certains réfugiés revendiquaient des tentes pour loger. C'est ainsi que 100 de ces réfugiés ont été arrêtés par la police, accusés d'être des promoteurs du soulèvement. Parmi eux figuraient 3 mineurs qui ont été libérés une semaine après grâce à une action menée par Plan International, une ONG qui plaide pour les droits humains. Mais la police malawite ne reconnaît avoir arrêté seulement une vingtaine de réfugiés. Restons encore dans le domaine des réfugiés, où le même journal évoque une situation inquiétante de malnutrition qui s'observe dans les camps de réfugiés en Tanzanie. SOS Média parle de plus de 2000 enfants menacés par des maladies carentielles dans deux camps de Nduta et de Nyarugusu. Selon le docteur Tumaini Nyundo, chargé du suivi des maladies liées à la malnutrition dans les camps de réfugiés burundais, Nduta et Nyarugusu, 18% d'enfants atteints par des maladies liées à la malnutrition meurent chaque année. Clôturant cette revue par le journal Burundi Echo. Corridor central, 10 capitaines de bateau, dont 2 Burundais diplômés, titre le journal. La cérémonie de remise a eu lieu ce 28 novembre de cette année à Dar es Salaam, en Tanzanie, par l'agence de facilitation du transport en transit du corridor central. C'est la joie des transporteurs burundais internationaux, car une dizaine de grands bateaux de la flotte burundaise étaient pilotés par des étrangers. La formation de 5 ans a eu lieu à l'Institut maritime de Dar es Salaam, supporté par le corridor central. Même si chacun des pays concernés envisage former pendant les 3 années à venir 5 capitaines de bateaux, on déplore que le nombre de capitaines burundais de bateaux restera insuffisant vu la demande. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que nous terminons la revue de presse de ce samedi 3 décembre 2022. Vous étiez avec Karine de Savé. Je vous souhaite de passer les meilleurs moments là où vous êtes. Au revoir et bon week-end.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Merci Karine Doussavé. Le mini-magazine au cœur de la société de ce samedi se focalise sur les techniques de conservation du maïs après l'échec constaté dans les stocks de Anagressa où plusieurs sacs de maïs étaient pourris. Au cœur de la société, vous êtes présenté par Jean-Marie de la Chinze.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Idwiya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
La problématique liée à la mauvaise conservation des denrées alimentaires a causé récemment la perte de plusieurs sacs de maïs pourris dans les stocks de l'Agence nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire Anagressa. Dans l'OMI magazine de ce samedi 3 décembre 2022, nous avons tendu le micro à un ingénieur agronome qui nous explique ici les étapes de la bonne conservation du maïs depuis son acquisition. Au micro, vous êtes avec Jean-Marie Ndabashinze. Bienvenue. Selon les agronomes, la collecte des récoltes nationales demande un entreposage dans les bonnes conditions de conservation. Ingénieur agronome Eric Kabgati explique la première phase qui concerne la préparation.
Comme ces maïs proviennent dans les différentes origines, surtout près de la population, ça nécessite une autre préparation de nouveau. Parce que conserver les maïs, ça demande de les sécher convenablement. Et de les trier. Donc, les sécher de nouveau et de les trier de nouveau parce que ces maïs proviennent dans des coins différents. Le temps de séchage exigé pour conserver les maïs varie entre 10 à 12% pour que les maïs ne se conservent pas de l'eau parce que l'eau peut causer de la moisissure ou les virus, de ce que nous appelons communément la néphratoxine.
Après la préparation du maïs, il faut impérativement préparer le stock qui va servir de stockage. En quoi consiste cette phase?
Il faut nettoyer et désinfecter le hangar de stockage, que ce soit à l'extérieur que même à l'intérieur. En plus de cela, il faut vérifier qu'il n'y a pas de trous au sein du hangar pour les boucher de nouveau, afin de ne pas se cacher des insectes ou des ravageurs qui peuvent même attaquer cette récolte par la plaie. Il faut aussi que ce stock soit bien construit pour faciliter la réaction. Pour qu'elles soient bien aérées. Il faut ranger des palettes à l'intérieur du stock. Après avoir mis des palettes à l'intérieur, on peut y mettre également des stinks. Et puis, on apprend ces sacs bien remplis et on va les entreposer dans ces îles séparées, après avoir mis les sacs dans le stock, on fumigue directement sans toutefois attendre l'apparition de ces rongeurs, ces ravageurs, pour éviter que les œufs ou les raves qui se cachent à l'intérieur de ces grains de maïs ne puissent pas affecter les maïs dès le début du stockage. On enferme, on met des comprimés spécifiques pour tuer ces rongeurs et on enferme ces chitings et on laisse ces chitings pendant 5 ou 4 jours et après on ouvre les chitings pour que les maïs restent mieux aérés. Et on fait tous les 3 mois cette opération de fumigation pour éviter que ces parasites, tous ces rongeurs ne puissent pas apparaître dans le stock. On peut même conserver le stock pendant plus même d'une année quand on suit bien le stock. En même temps, il faut que le chargé du stock surveille tout le temps pour voir qu'il n'y a pas d'autres ennemis du stock qui puissent attaquer le stock.
Mise en place par un décret présidentiel en mai 2018, ce projet Anagessa s'inscrit dans la droite ligne de la politique socio-économique du pays. Le projet consiste à éviter une mauvaise gestion des récoltes pour se prévenir contre la famine. Voilà, c'est ici que prend fin le mini-magazine de ce samedi. Jean-Marie Ndabashinze était à la présentation. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Merci Jean-Marie Ndabashinze et c'est par ce magazine Au cœur de la société que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez avec Joséphine Johnson-Zima à la présentation. Excellente soirée à tous. Au revoir et à la prochaine.